Podcast.com. Essaye ça.
Express de l'Halloween! Salut tout le monde, 31 octobre. Aujourd'hui, on fait un spécial hivernal. Non. J'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus hier au grand désarroi de mon ami Martin, qui déteste de façon viscérale l'hiver. Faut dire que c'est pas ma saison préférée, moi non plus, mais tu sais, on est pogné avec, ça a été comique, ça a donné tout un épisode, puis je pense même qu'il paraît, en tout cas, que ça pourrait peut-être même donner un certain sticker, puis moi, je l'attends avec impatience, je pense qu'il va être pas mal bon. Il y a une conspi qui a donné un méchant show au palais de justice de Gatineau hier, c'est épouvantable. C'est une Québécoise de 59 ans qui parle pas français, mais bon, ça c'est courant pareil dans cette région-là. Elle avait deux amendes à payer pour avoir refusé de porter le masque. Évidemment, tu sais, c'est comme c'est un classique. Ouais, t'as manqué ça, Stéphie. Mais tu peux assister à ça si tu t'abonnes au Patreon de Tout ce qui TV. Sinon, en podcast, ça se trouve gratuitement et mais t'auras pas l'image. Bon. Donc cette femme-là qui a décidé de se présenter pour aller faire face à la justice pour payer ses deux tickets, qui totalisent à peu près 3 000 $, je pense, des tickets de masque. Là. Elle est arrivée là avec son chien guide. Puis une gang de conspi qui venait l'appuyer, tu sais, pour la justice. Son chien guide, c'est pas un chien guide. C'est un chien de sacoche, le genre de Pékinois, gros comme un hamster, puis qui jappe, puis qui mord tout le monde. C'est ce genre de petit chien détestable-là. Moi, j'haïs ces chiens-là. Je les haïs autant que Martin haït l'hiver. Toujours des mauvais chiens, tout le temps des chiens dominants qui jappent, qui mordent, puis se font des caprices, puis que... C'est bien, bien rare que ces chiens-là sont adorables. Hein? Mais en tout cas, c'est pas de la faute du chien, c'est de la faute de la folle, la madame qui s'est pointée là. Elle est arrivée là avec son crew, sa gang de conspi. Elle s'appelle Bozena Lis Kalinowski. Bon, elle est connue. Moi, son nom, je me sonne pas de cloche. C'est pas le genre de nom qu'on oublie facilement. Là, c'est pas Thérèse Tremblay. Là, tu sais, c'est Bozena, on s'en rappelle. Mais apparemment, elle a fait beaucoup d'apparitions dans des manifestations anti-mesures sanitaires, puis des activités de conspi. Elle faisait même des discours pendant ces manifestations-là. On la voit sur une photo avec, évidemment, drapé d'un unifolié en guise de cape de super-héroïne. Micro à la main, en train d'haranguer la foule. Ben, elle est arrivée là avec sa gang. Genre une dizaine de personnes, puis son écureuil. Puis là, il y a une vidéo disponible, mais pour vrai, c'est juste cacophonique. On voit pas tellement grand-chose, on voit juste le moment où les agents de sécurité, les constables spéciaux, poussent la madame et son crew de conspi vers la porte. Puis là, évidemment, on a droit à toutes les balivernes, là, puis « Ah, vous avez pas le droit de faire ça, puis vous êtes pas des bons policiers, puis... vous agissez illégalement, puis ça, c'est un service dog. C'est un chien guide, un chien de service. Arrête, là. Ce chien-là, même pas capable de guider son cul pour aller chier à bonne place dans le cours de... cours arrière. on a juste inventé ce prétexte-là pour être capable de le rentrer, là. Évidemment, ça n'a pas passé. On dit devant les... du côté des constables spéciaux... Il disait que le chien est un chien guide, mais selon nos observations, le chien correspondait pas à ça. Un chien guide d'habitude, là, il est en avant de toi et il te guide. Elle l'a dans les mains, là, ou dans sa sacoche, là. C'est un chien de sacoche, là. C'est pas un chien guide, là. Il guide rien, là. Un chien de garde de sacoche, oui, mais c'est bon, bisous. Fait que là, en voyant cette injustice incroyable-là, puis de voir comment ils étaient maltraités par la police, ils ont appelé le 911. Il y a beaucoup de citoyens souverains qui font ça. Hein. Ils se font intercepter par la police. La police fait sa job et demande juste genre ton permis, tes plaques, puis ça, c'est de l'abus. Puis là, ils appellent d'autres polices en pensant que ça va les sauver. Ils appellent le 911. Puis évidemment, ben, quand il y a d'autres policiers qui se pointent, ben, écoute, faut que tu montres ton permis. J'ai pas besoin de permis, je conduis pas, je voyage. Ces gens-là sont des imbéciles. Ces gens-là sont des monde qui se sont laissés endoctriner, qui se sont laissés convaincre sur les réseaux sociaux qu'ils avaient des droits qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'avaient pas des responsabilités qu'ils ont. Donc, ils sont mis à appeler le 911 dans le palais de justice. La gang de conspi, là. Puis là, ils sont mis à gueuler, évidemment. Puis là, ben, ils ont filmé ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Puis là, ben, t'es voix menacer les policiers. Regarde, là, tout ça, c'est filmé. Là, tout ce qu'ils avaient fait, c'est filmé. You are done! Tu sais, genre, votre carrière est finie, là. See you in court. On va se voir au tribunal. On va vous poursuivre. Ben oui, bonne chance avec ça. Bonne chance de poursuivre des constables spéciaux qui ont pas laissé une gang de conspi enragés. Et un rat de sacoche s'introduire en criant dans une salle d'audience. La juge Christine Auger a finalement été contrainte de faire arrêter Bozena Lys-Kalinowski. Elle a saisi son cellulaire. Évidemment, ça n'a pas passé. Ouh, que ça, c'est grave. Écoute, elle a rentré dans l'entrée. La conspi est entrée dans la salle d'audience. En fait, dans l'entrée seulement. Pas rentrée complètement dans la salle d'audience. Elle voulait pas rentrer. Elle voulait pas se séparer de son chien. Elle refusait d'obéir à toutes les consignes. D'après moi, ils appelaient la garde... Oh non, t'as faut que je dise comme il faut. La garde nationale du Québec! Hey, ça serait drôle de les voir se pointer là au palais de justice puis mettre en état d'arrestation les constables spéciaux. Finalement, notre amie Bozena, elle a été reconnue coupable pour les deux chefs d'accusation, évidemment, les tickets de masque, ça fait à peu près 3 000 $. Mais c'est pas tout, parce qu'à cause du show qu'elle a fait avec son entourage, elle va devoir comparaître à la fin du mois de novembre pour outrage au tribunal. C'est ça que ça fait quand tu pètes une coche dans un palais de justice, que tu refuses de suivre les consignes, que tu essaies de faire rentrer ton chien barbette, comme j'ai lu dans les commentaires tantôt. Mais quel front, là, tu sais, d'aller dire tu peux pas rentrer avec ton chien. T'es un chien guide! Il guide quoi, ton chien, dans ta sacoche? Oh, c'est assez ridicule. Puis, une autre histoire d'anti-masque, celle-là date de quelques semaines, mais elle m'avait passé sous le nez, je l'avais pas vue. C'est un anti-masque qui voulait entrer dans un autobus, puis la chauffeuse à l'époque lui a dit « Excuse, ça te prend un masque, sinon tu peux pas rentrer dans l'autobus. » Et le conspirationniste s'est fait justice lui-même. Et il a frappé la chauffeuse d'autobus dans la face et lui a fracturé la mâchoire pour pas mettre un masque. Et cet imbécile-là, qui s'appelle Patrick Desbiens, 40 ans, un champion de Sainte-Thérèse, lui, il considère qu'il n'a rien fait de mal. Mais tu vois dans son discours que le gars, il est saucé profondément. Là. Il est tellement saucé, il est imbibé. Là. Il goûte la sauce, il sent la sauce, il respire la sauce, il est la sauce. Donc, non seulement considère-t-il n'avoir rien fait de mal en fracturant la mâchoire d'une chauffeuse d'autobus qui a juste voulu faire sa job et appliquer le règlement. Mais il considère qu'il n'a rien fait de mal. Et il demande, puis ça c'est très très rationnel, la liberté ou la mort. Il dit, je demande la peine capitale ou la liberté dans mon dossier. Libérez-moi ou exécutez-moi. Ça c'est très 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 rationnel, c'est très très... C'est vraiment le discours de quelqu'un qui est en possession de tous ses moyens, puis qui est un individu raisonnable. Je ne mettrai pas de masque. Je m'a cassé la gueule d'une madame qui veut que j'en mette un. Puis si vous n'êtes pas content, là, tuez-moi! Mais je m'en fous. Sa conjointe, elle l'a décrit à la cour. Elle le dépeint comme un homme calme, serein, puis toujours positif, puis prêt à aider les autres. Oui. C'est ce que la chauffeuse d'autobus a bien vu. Sauf que la procureure de la Couronne s'inscrit en faux dans cette affirmation-là. Elle ne corrobore pas le fait que cet homme est un homme calme, serein, toujours positif et prêt à aider les autres, même lorsqu'il pète la gueule à une femme qui conduit un autobus. Pour rien. Pour rien. Parce que pour avoir demandé de mettre un masque, c'est rien, là. Elle a rien fait de mal. Elle a rien fait contre lui. Elle a juste fait sa job. Fait qu'il y a casser la mâchoire pour absolument rien. Cet individu positif, calme, serein, toujours prêt à aider les autres. La procureure de la Couronne affirme qu'il a des problématiques de gestion de la colère, d'impulsivité et de consommation d'alcool et de drogue. Attends un peu, je vais relire ce que sa blonde a dit, parce que sa blonde, ça doit le connaître, là. Calme, serein, toujours positif, toujours prêt à aider les autres. Attends un peu, je vais relire l'autre. Problématique de gestion de la colère, d'impulsivité, consommation d'alcool et de drogue. Ah, on dirait que c'est exactement le contraire. Aïe, aïe. Puis en 2020, il avait dit publiquement que personne allait le forcer à mettre un masque. Ça, on en a entendu pas mal des gens dire ça. Et même aller aussi loin que lui, là, mais il n'y en a pas beaucoup autant que ça qui sont allés jusqu'à agresser quelqu'un. Il disait, va falloir me mettre une balle entre les deux yeux pour que je porte un masque. Maudit cave. Tu sais, c'est. Faut être fucké en maudit pour. J'ai failli sacrer, là. Christ que j'ai failli sacrer. Faut être fucké pour à peu près. Pour dire, ben, j'aime mieux mourir que me mettre un petit masque qui me fait renvaler ma bave. M'empêche de cracher. Il dit, puis si vous me mettez pas une balle entre les deux yeux, puis vous voulez que je porte un masque, ben c'est votre droit à la vie qui va être en jeu. OK. Fait que si tu veux pas me tuer, puis tu veux quand même que je mette un masque, moi, il m'a tué! Comment elle le décrit, donc? Calme, serein, toujours positif, toujours prêt à aider les autres. C'est un malade, ce gars-là. C'est un débile. Donc, la chauffeuse de 55 ans, lui, il avait juste demandé de mettre son masque. Puis, il a pété la gueule. Il a cassé la mâchoire. Puis, elle est en choc post-traumatique depuis ce temps-là. Elle sort pas beaucoup de la maison. Dès qu'elle voit un homme, elle fait de l'anxiété. Ce gars-là est prêt à fucker la vie et le quotidien d'une femme en plus de lui avoir fracturé la mâchoire. Tu sais, c'est pas une gifle, là. Il lui a cassé l'os de la mâchoire. Ça veut dire qu'elle mange avec une paille, là. Parce qu'il voulait pas mettre de masque. Je vais prendre le temps de le renommer. C'est quoi le nom de cette espèce d'excrément de la Terre, là? Patrick Desbiens, 40 ans, de Sainte-Thérèse. Oh, je m'en vais-tu là-dessus? Ben oui, pourquoi pas. Alors que l'inflation et hausse de taux d'intérêt sont après détruire l'économie, surtout le portefeuille et le pouvoir d'achat des citoyens, et de plus en plus de gens font la file aux banques alimentaires, de plus en plus de personnes ne réussissent pas à se payer un logement. Premièrement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup disponibles. Et ceux qui sont disponibles sont hors de prix parce que les propriétaires véreux ne se gênent pas pour gonfler les prix et même faire des rénovictions ou juste évincer des locataires sous des faux prétextes pour après ça doubler, tripler le prix du loyer pour faire des passes de cash, faire un Airbnb. Comme on a vu la semaine passée, un appartement qui coûtait quelque chose comme 700-800 par mois, ben là, c'est rendu 600 par nuit Airbnb, une affaire de même. Ou par semaine, c'est sûrement par semaine. Mais pendant que tout le monde en arrache, ben imaginez-vous donc que les dirigeants, ben c'est pas dur à imaginer, ils font toujours ça. Les dirigeants de la Banque centrale, eux, se sont donné des primes. Ils se sont donné des petits cadeaux. Ils se sont partagés à peu près 3,5 millions de dollars entre eux. Le rôle principal de la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable. Je pense qu'ils n'ont pas réussi. Et favoriser la prospérité économique et financière du Canada et des citoyens. Je pense qu'ils ont failli là aussi. Selon Nicolas Gagnon de la FCC, ces millions ont été distribués pendant un des pires épisodes d'inflation au pays. Les cadres à la Banque du Canada n'ont aucun problème à se distribuer des bonis avec l'argent des contribuables parce que oui, c'est notre argent! Vous, madame, qui êtes allée à la banque alimentaire hier parce que vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts, et vous, monsieur, qui m'écoutez dans votre auto parce que vous n'êtes pas capable de vous trouver un logement, ou de juste de vous l'offrir, de vous le payer. Eh bien, votre argent, une partie de votre argent a servi à faire des cadeaux à ceux qui ont échoué à protéger votre pouvoir d'achat et votre sécurité financière. Depuis 2015, c'est 21 millions. Ça, c'est les primes des dirigeants de la Banque du Canada. Ça, c'est ce qu'ils se sont donné depuis 2015. Hey, on se félicite. Dans le fond, c'est une prime, c'est censé être une partie de salaire qu'on donne en boni parce que les employés, les personnes qui sont payées ont réussi à atteindre des objectifs, ont été performants. Tandis que là, ben, ils n'ont pas été performants, là. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. L'inflation est à son plus haut. Puis on se donne des cadeaux pareils. Dans le fond, la réalité de ça, c'est que peu importe ce qui arrive, on va toujours se donner des bonis dans les castes supérieures des citoyens de première classe de l'élite financière canadienne. En juillet dernier, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff, j'ai le goût de l'appeler Stiff Macklem, encourageait publiquement les entreprises à ne pas augmenter les salaires. Pourquoi? Pour ralentir l'inflation. Là, faut ralentir l'inflation. Suivez notre conseil. Nous autres, c'est notre job de ralentir l'inflation. Fait qu'on va vous dire, augmentez pas les salaires du monde. Ouais, mais vous autres? Ben, nous autres, c'est pas pareil, là. Nous autres, on va non seulement augmenter nos salaires, mais on va se donner des bonus! Ces gens-là sont à la fois sont soit déconnectés, soit immoraux. Moi, je pense qu'ils sont immoraux. Moi, je pense qu'ils sont très au fait de la situation. Ils sont très au fait de la situation précaire des contribuables au Canada. C'est juste qu'ils s'en calissent. Eux autres, ils regardent les nouvelles où on voit des gens faire la file assis sur un matelas bourré d'argent. En se vautrant dans des billets de banque, puis des pièces d'or, puis c'est comme ça que je les vois. Ils s'allument des cigares avec des 100 piastres en regardant le monde crever de faim. Puis ils s'en sac. Puis on dit, ouais, mais ça, c'est parce que c'était votre job de veiller à ce que l'inflation soit contrôlée, puis est-ce que la sécurité financière des... Notre job... Ah bon... Ouais, mais vous l'avez pas réussi? Ouais, OK. Puis pourquoi vous vous donnez des bonus? Parce que. Une entreprise normale, quand elle affiche ses pires résultats en 40 ans, elle ne célèbre pas et ne distribue pas de bonis, souligne Nicolas Gagnon du FCC. Mais la Banque du Canada, au cœur de la pire inflation en 40 ans, on verse des bonis parmi les plus généreux depuis 2015. Si ça, c'est pas indécent, je sais pas comment appeler ça. Le pire, c'est que... on est censé être protégé de ça, là. On est censé... Ils servent à quoi, ces gens-là? Tu sais, bravo, Nicolas, pour ce que tu as dit, là. Tu as bien raison, c'est indécent, puis on se donne des bonus pendant que les citoyens n'arrachent. Mais tu fais quoi? En fait, peux-tu faire quelque chose? Non. Il fera rien, puis il se passera rien. La FCC, c'est la Fédération canadienne des contribuables. C'est un organisme qui est censé se porter à la défense des contribuables. Mais, sauf erreur, il n'y a aucun maudit pouvoir. C'est bien beau, là, de dire dans les médias, ah, c'est indécent, puis on sait que les Canadiens en arrachent. Pendant ce temps-là, la Banque du Canada se donne des généreux bonis, OK, mais peux-tu faire quelque chose pour l'empêcher? Sinon, en quoi ton organisme nous défend? Dites que vous dénoncez, OK, soyez honnête. Parce qu'il n'y a personne qui va aller chercher l'argent dans les poches de ces vautours sans entrailles qui gère la Banque du Canada. Ces vampires-là qui se nourrissent à même le sang de vos enfants, bon, okay, l'image est un peu forte, qui mangent directement dans l'assiette de vos enfants. Il leur arrivera rien. Ils vont prendre les millions puis ils vont y mettre ça à pile. Puis c'est pas comme si c'était des gens qui avaient un salaire précaire. Non, non. Ces gens-là gagnent des centaines de milliers de dollars quand c'est pas des millions, puis en plus, ils se donnent des petits cadeaux à la fin de l'année pour se féliciter d'avoir été poche, incompétent, incapable de freiner l'inflation, incapable de protéger la sécurité financière, alors que c'est leur mandat. Ils ont pas fait la job, puis ils se donnent des cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Puis j'ai pas l'impression qu'on n'a aucun levier pour obtenir justice, pour que ces gens-là remettent leur bonis, les redonnent à l'État, pour que cet argent-là soit réinvesti, peut-être dans des banques alimentaires, nourrir ceux qui crèvent de faim. C'est pas vrai que nous sommes tous égaux dans la société. Ces gens-là sont au-dessus de tout le monde. Ces gens-là sont riches parce qu'ils se servent à même vos poches. Ils sont riches parce qu'on est pauvres. OK? Oh. Où c'est que je m'en vais? On va prendre des petits sujets un petit peu plus légers. Quand même un peu fâchant. Il y a une Québécoise qui s'est présentée dans un restaurant, en tout cas, restaurant, je sais pas si on peut appeler ça de même, là. dans un McDo de la rive sud. Puis elle était accueillie en anglais. Bon, c'était à Greenfield Park. Puis là, ben, elle a commandé son, je sais pas quoi, là, tes chai ou citrouille, whatever. Évidemment, l'employé unilingue anglophone ne comprenait rien de ce qu'elle disait, alors que on est censé être accueilli et servi en français dans les commerces au Québec. C'est la loi 101 qui dit ça. On devrait pas avoir à le demander. Ça devrait être comme ça. Et comment elle s'appelle? Madame l'épicier. C'est un nom particulier, ça. Donc, Laurence l'épicier n'a pas réussi à se faire servir en français. La gérante s'est présentée. Elle aurait pu régler la situation en disant « on s'excuse ». Normalement, cet employé-là, elle travaille aux cuisines, puis je vais vous servir, madame, puis en français à part de ça. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Elle parlait français. Et elle s'est servie de son français extraordinaire, cette gérante de McDo-là, pour dire à la cliente que, ben, si elle comprend pas l'anglais, c'est son esti de problème. Il dit, ici, c'est Canada! Si vous comprenez pas anglais, c'est votre problème! OK. Fait qu'elle n'est pas capable de la servir en français, elle est capable de l'envoyer chier en français. Pardon. Fait que la madame a été... madame Laurence l'épicier a été servie en anglais puis envoyée chier en français. Évidemment, elle s'est un petit peu fâchée, elle a filmé ça. Selon elle, la gérante a fait preuve de mépris, c'est le moins qu'on puisse dire. Hmm? Ici, c'est Canada, speak white tabarnak. C'est ça que ça veut dire, c'est... Mais elle l'a dit en français. Si tu comprends pas l'anglais, c'est ton problème. Ici, c'est Canada. Ben, ici, à Canada, c'est une province bilingue et ici, à Canada, il y a une c'est un pays bilingue et il y a une province qui s'appelle le Québec, dont la langue officielle est le français. Fait ici, c'est Québec. Apprends la langue. Ou travaille pas dans le public. En tout cas, ben elle, la gérante, elle a appris la langue, en tout cas, suffisamment pour envoyer chez la cliente en lui disant que qu'ici, c'est Canada. Tu parles pas anglais, ton problème. Donc, elle a porté plainte, elle a déposé une plainte à l'Office québécois de la langue française. Et elle réclame des excuses de McDonald's. Pensez-vous que McDonald's... Non, non, excusez-moi. McDonald's? Pensez-vous que McDonald's s'est excusé? Non. Pourtant, tu sais, Madame l'épicier semble être de bonne foi, même si elle s'est fâchée un petit peu. Pire que ça, Frank, le Canada est bilingue, c'est ça le plus débile. Ouais. Il y a... une province bilingue puis une province francophone. Ça, c'est la réalité, là. Nouveau-Brunswick, c'est bilingue. Le Québec, c'est francophone, puis le reste, c'est en anglais, là. C'est pas parce qu'il y en a 8 qui, une fois par semaine, parlent la française ensemble en Alberta. Les francophones du Canada hors Québec, je suis désolé de vous l'apprendre, là, mais vous avez perdu, là. Vous existez presque pas. Et puis, ça ira pas s'améliorant, là. Donc, elle dit, Laurence l'épicier dit, si l'employé avait fait un effort, si la gérante est arrivée, il m'avait dit, je suis désolé, normalement, elle travaille dans les cuisines, ça serait arrêté là, et il n'y aurait pas eu de plainte de ma part. Mais elle a été arrogante. Et McDonald's, qui ne s'excuse pas, qui refuse de s'excuser, là, on leur a demandé, là. Non, pas d'excuse. Mais McDonald's du Canada prend très au sérieux ce genre de situation. Nous enquêtons sur cet incident et prendrons les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. C'est ce qu'on a écrit, sans accent, par exemple. dans un courriel de réponse signé par aucun humain, signé par l'équipe des relations médias. Et McDonald's a cru bon d'ajouter que nous veillons à ce que les lois linguistiques du Québec soient appliquées dans toutes leurs facettes de expérience client, de emballage jusqu'à service. Vous veillez tellement bien à ce que les lois linguistiques du Québec soient appliquées dans toutes les facettes de l'expérience client, de l'emballage jusqu'au service à la clientèle, que vous engagez des gens unilingues anglais pour servir le monde et que la gérante du restaurant a appris juste assez de français pour envoyer chier les francophones puis leur dire de « speak white ». Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit « ici c'est Canada, tu parles pas anglais, ton problème ». Selon l'Office québécois de la langue française, c'est pas à nous, au Québec, de demander le service en français. Il doit être là en tout temps. La loi 101 prévoit qu'une entreprise a l'obligation de s'assurer qu'en tout temps, au moins un employé est capable d'offrir le service en français. Ben là, il y avait un employé capable d'envoyer chier en français. Et une employée incapable d'offrir le service en français. On dirait que c'est pas pareil. Évidemment, je doute que ça donne grand-chose. Quoique, on ne sait jamais. McDonald's a les poches profondes et sont capables d'acheter la paix. Ben écoute, si ça leur coûte une couple de milliers de dollars, ça n'apprendra pas à parler français à l'employé, puis elle ne l'apprendra pas. Là. Pour vrai, des Anglais qui font l'effort d'apprendre le français, ça existe pratiquement pas. Là. C'est extrêmement rare. Là. C'est une minorité. Pourquoi? Ben parce que t'as pas besoin de parler français pour fonctionner au Canada. Parce que nous autres, en plus, les Québécois, caves comme on est, soumis comme on est, quand il arrive un Anglais qui essaie de parler un peu français, on switch à l'anglais nous-mêmes pour l'accommoder. Tu vis où pour que personne ne parle français? Greenfield Park. Ah, puis il y a des quartiers à Montréal aussi, puis il y en a en masse des places où ça parle plus anglais que français au Québec. Québec, Basse-Ville. Juste en anglais. McDo était un de nos clients pour la location de containers à vidange et c'était un homme de Toronto qui appelait et même son anglais était incompréhensible. Ouais, mais fais pas de service à la clientèle. Au moins. Le trois quarts des restaurants rapides sur la rue Amel ne parlent pas français. OK, ça fait longtemps que je suis pas allé manger de la scrap à Québec. C'est peut-être l'immigration, c'est peut-être des gens qui... parce que l'anglais est une langue beaucoup plus internationale que le français. Et ça arrive souvent que les immigrants apprennent l'anglais et sont capables de fonctionner au Québec. Par contre, lorsqu'ils travaillent avec le public, ils devraient être capables au moins d'apprendre la base, là. Chris, Big Mac en français, on dit Big Mac, là. <C'est> pas... On leur demande pas de lire du Molière en vieux français, là. Je veux un Big Mac, s'il vous plaît. Pas si dur. Mais il faut dire que c'est des nouveaux arrivants, ils sont toujours sympathiques. Oui, ça, je te crois. Puis eux autres, je leur pardonne. Ils viennent d'arriver. Puis le pire, c'est que je pense que les immigrants qui arrivent ici sont pas mal plus enclins à s'adapter et à apprendre le français qu'un Anglais qui est né ici. J'ai pas de chiffres scientifiques, j'ai pas de données. C'est un feeling. Ça sort de ma 17e lettre de l'alphabet. C'est le sentiment que j'ai selon mon expérience. Le Big Mac. Ouais, ça, c'est dans Pulp Fiction. Le Big Mac. Ouais, ben, le pire, c'est que si vous allez en France et vous commandez un Mac poulet, personne va comprendre. Ah, vous voulez un Mac chicken? Ils sont tellement fiers de dire des mots anglais, même s'ils sont incapables de les prononcer. C'est mignon. C'est mignon. Un Mac chicken avec des nuggets. On a aussi les fraises. Les French fries! l'ironie de ça. Alors, vous voulez des French fries avec votre McNugget? Mais eux autres, ils ne sont pas en train de se faire assimiler de façon intense depuis 300 ans par les anglophones. Ils sont plusieurs millions, c'est pas trop pire. Mais ils sont, c'est vrai qu'ils sont drôles, c'est vrai qu'ils sont comiques. Ils inventent des mots qui n'existent pas, ils détournent des mots. Il y a un humoriste, comment il s'appelle? Il fait un spectacle, Paul Taylor. C'est un Britannique qui a appris le français en France et au Québec. Et il excelle en français, parle très bien français. Ah oui, le chicampi. Chicampi, c'est... ouais. Le chicken pie, pâté au poulet. Du chicampi? Ça, il paraît que c'est plus parisien qu'autre chose, ce phénomène-là. Mais en tout cas, Paul Taylor, vous allez voir ça. Franglais, son spectacle, c'est disponible sur YouTube. Et puis, il explique, il met en lumière les contradictions des Français qui essaient d'avoir l'air cool en parlant anglais. Puis il change des mots, puis il en détourne le sens, comme un jogging. Un jogging? Ben, c'est un pantalon de sport. Là. Mais pour courir, ils appellent ça faire du footing. Alors, j'ai mis mon jogging et je suis allé faire mon footing. Footing, ça n'existe pas, chers amis. L'autre côté de la flaque atlantique. Faire un footing, c'est pas une phrase qui fait du sens. Faire du jogging, si vous voulez, être cool, parler anglais, dites j'ai fait mon jogging. J'ai fait mon footing, ça veut rien dire. Mais en tout cas, vous irez voir le spectacle, c'est assez hilarant. Il parle de son expérience en France, puis aussi au Québec. Quand il explique qu'il est venu au Québec pour parfaire son français, puis moi, c'était pas meilleure place. Effectivement, Gonçon, à cette heure, ils sont 8. On n'a pas toujours le meilleur français. Mais bon, le français qui nous reste, on aimerait ça le protéger un petit peu. Je suis pas un maniaque de la langue, je suis pas un intégriste là, de 101, là, mais arriver dans un restaurant, pas capable de se faire servir en français, mais se faire envoyer chier en français, ah ça par exemple, je trouve ça ordinaire, hein, maudit. J'espère que ça va coûter de l'argent, cette affaire-là. Parce qu'il y a juste ça qui marche. Là. Je veux dire, c'est le seul moyen de pression qui existe, c'est l'argent. Et c'est le seul incitatif aussi, apparemment. Parlant d'incitatif et d'argent, le gouvernement va régler la pénurie d'employés, de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Comment ils vont faire ça? Ben, ils vont offrir des formations accélérées et rémunérer aux aspirants ouvriers pour réussir à recruter à peu près 5 à 6 000 employés manquants. Sauf que les syndicats de la construction, comme la FTQ, tout ça, ben, eux autres, ils ont des petites réticences, puis ils ont des bons points. C'est parce que la construction, c'est pas un domaine anodin, là. Ça prend vraiment des gens compétents pour faire ça, là. On ne peut pas mettre des apprentis ou des gens à moitié formés en charge de la structure d'une maison, de la fondation, la plomberie. Donc, ça a été confirmé hier qu'il y aurait 4 nouvelles formations express. Vous êtes dans l'express. Qui seront bientôt offertes. Charpenterie, menuiserie, bah. Conduite d'engin de chantier, pouf, pas grave, s'il chauffe à peu près. Ferblanterie et réfrigération. Ah, pas compliqué, ça. Hey, réfrigération. J'ai un steaker en tête qui est là-dedans, puis vous dire que c'est loin d'être quoi? C'est loin d'être simple comme métier. Faut que tu connaisses ton affaire. Ça va coûter 300 millions de dollars parce que ceux qui vont emprunter cette voie rapide-là, qui va mener à une attestation d'études professionnelles, un AEP, en 4 à 6 mois seulement, vont être payés 25$ de l'heure pour recevoir les cours. Ça, c'est l'équivalent du salaire d'un apprenti qui arrive sur le marché de la construction. Ça veut dire qu'il a fait une vraie formation complète et qu'il commence à travailler. Il va aussi avoir des bourses à la diplomation. Une fois que tu réussis, ben, entre 9 000 et 15 000, c'est ce qui va être offert à ceux qui vont ceux qui vont s'inscrire dans les trois prochains mois. Si tu veux faire une passe de cash, allez là. Globalement, on dit l'objectif du gouvernement est de former jusqu'à 5 000 nouveaux travailleurs. Mais les syndicats, eux autres, ils ont une autre stratégie. C'est l'alternance travail-études. Des gens qui vont étudier et qui feraient des parties, qui feraient comme un genre de stage en même temps qu'ils étudient en tant qu'apprentis sur les chantiers, mais en suivant leur cours au complet. Ce qui fait que non seulement ils vont bénéficier de l'expérience des travailleurs expérimentés, mais en plus, ils vont faire le cours complet. C'est certain qu'ils vont être qualifiés. Ce qu'on dit du côté de la FTQ Construction, par la bouche d'Éric Boisjoli, qui est le directeur général, sur les chantiers, c'est pas des apprentis qu'on a besoin. C'est des gens qualifiés. Et pour être qualifié, il faut faire la formation. Je veux dire, on ne peut pas couper la formation à moitié, puis ils vont être aussi compétents. Non! Le président de la CSD Construction, Cardufaux, croit que le gouvernement tourne les coins ronds. Moi, je dirais plus qu'il nivelle vers le bas. Pour mieux remplir les promesses électorales qu'ils ont de la misère à livrer. Ah! On a promis des maisons pour les aînés. Puis on n'est pas capable de les livrer. Fait qu'on va mettre une gang d'incompétents à finir ça. Bon, d'incompétents. Il y en a certainement qui vont être compétents. Il y en a certainement qui vont être doués. Mais ils n'auront pas la formation complète. Fait qu'on ne pourra pas dire qu'ils sont tout à fait compétents. Puis ils vont faire des plomberies, des charpentes, tu sais, des choses qui sur lesquelles repose la sécurité des gens qui vont habiter ces maisons-là, ces centres pour aînés-là. Mais le gouvernement se sac bien de ce que les professionnels de l'industrie de la construction préconisent, c'est-à-dire la conciliation travail-études. Et ils vont aller de l'avant. Dès janvier 2024, il y aura ces quatre nouvelles formations-là, je les répète. Charpenterie-menuiserie, assez majeur. Conduite d'engins de chantier, ferblanterie et réfrigération. On dit que dans chaque région, il y aura au moins une de ces quatre formations-là qui seront offertes. Puis le salaire là, de 25$ à l'heure, ça équivaut à 750$ par semaine pour suivre le cours. Du monde qui travaille à temps plein, puis ils font pas ça. Et on ajoute évidemment les bourses à la diplomation de 9 à 15 000 $ pour ceux qui vont s'inscrire dans le DEP. Le DEP, par exemple, c'est plus complet que le AEP. Je suis plus favorable à ça. Mais bon, qu'est-ce que je connais dans la construction, vous allez me dire? Je vous répondrai rien. Rien! Je suis capable de planter un clou, visser une vis... Puis mesurer 60 pouces, 66 pouces, 3 quarts faibles, ou 181 pouces, fort. Je sais pas pourquoi on tarde de mettre le métrique là-dedans. Je m'embarquerai pas là-dedans. Là. Regardez, le bois d'œuvre, c'est avec le système de mesure... de mesures préhistoriques que seuls les Américains puis un autre pays, je sais plus où, continuent d'utiliser. Continuez avec vos mesures primitives, là, puis moi, je pense qu'on devrait tout convertir le plus possible en système métrique. Pourquoi? Parce que ce système-là est meilleur. Point. Point. Il est logique, il est meilleur. L'autre, c'est juste de la marde. Frank est meilleur dans la démolition. Ben, Colin, tu crois pas si bien dire, parce que j'ai travaillé un petit peu dans la construction, là, tu sais, genre, aide, là, tu sais, manœuvre, là, tu sais, j'étais pas en charge de rien, là, à part que démolir, puis ça, j'aimais ça. On refaisait des logements dans la région de Québec, puis dans le Vieux-Québec, puis on mettait des murs à terre, on réparait des choses, puis tu sais, je suis capable de faire du plâtre, je suis capable de... ouais, je suis aussi bon que Martin et Matt. Je suis pas payé pour démolir, avec une masse, là, puis un petit outil qui m'assure que je pète pas de la plomberie ni du système électrique. J'étais pas pire avec un César! César, t'sais, un César, là, t'sais, cette espèce de scie là, de qui ressemble à une mitraillette. Là, vraiment le fun à utiliser, surtout quand t'es dans la jeune vingtaine. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec ça à l'époque. Mais mes compétences, sur une échelle de 1 à 10, je les mettrais à blarc. Pas très fort en maths, pas très fort en géométrie. Pas très visuel non plus. J'ai tout ce qu'il faut pour être mauvais là-dedans. Fait que non, je suis pas. Je suis probablement aussi bon que Martin et Matt, sauf que je suis peut-être un peu plus patient. Je pète pas ma coche. Bon, le Grinch vient d'arriver. Comment ça, le Grinch? Ah ben oui, regardons ça. Maudit hiver de merde. Salut Martin. Je me suis fait construire un chalet, Frank, juste pour passer deux bouts de 6 pieds sous la semelle de la fondation. J'ai dû appeler un plombier. 1 500 $ pour deux bouts de 6 pieds de 4 pouces en PVC. OK, de 4 pouces de diamètre. Les gens qui coulaient la fondation, je pouvais pas le faire, j'hallucinais. Ah, mais la construction, c'est un métier, hein, tu sais, puis ça demande des compétences, des talents aussi. Tu sais, je pourrais aller là, moi, faire de l'argent, sauf que j'ai pas le talent. Puis en sachant que je serais pas dans les meilleurs, je serais sûrement dans les pires. Je pense que je vais continuer à chialer dans un micro puis à dire des niaiseries, puis à jouer des personnages douteux. Je pense que ça... Puis à écrire. Ça, je suis bon. Je suis bon pour écrire. Je suis capable d'écrire. Mais pas des plans. En tout cas, ben, c'est la solution que le gouvernement a trouvée. Tout simplement, niveler par le bas, comme on aime faire au Québec quand on est dans la marde. Puis on l'est pas mal dans la marde. Là, il y a une grève lundi prochain. D'ailleurs, c'est vous autres qui allez être dans la marde, chers parents. Parce que lundi prochain, il y a une grève, plus une grève symbolique là, qu'une grève réelle. Il faut que ça dérange un petit peu, sinon, je veux dire, ça attirera l'attention de personne. C'est un moyen de pression qui ne dérange pas, n'exerce aucune pression sur qui que ce soit. Donc, on va fermer les écoles. Il y a une grève qui, tu sais, la preuve que c'est symbolique, puis que, tu sais, allez pas gueuler dans la face des profs, là. Ils font un effort pour faire la grève la moins dérangeante possible pour vous autres. Puis oui, ça va vous déranger un peu. Oui, vous allez peut-être être dans la merde un petit peu lundi. Mais pour vrai, je les trouve conciliants. Surtout en prenant en compte la situation qu'ils vivent. C'est pas facile d'être prof, ces temps-ci surtout. Les classes sont surchargées. Il y a plus beaucoup de professionnels de l'éducation, tu sais, comme des orthopédagogues, puis des ci, puis des ça, pour venir en aide aux élèves en difficulté. On pitch tout ça dans le cours des profs. Organise-toi dans ta classe de 40 étudiants avec 6 cas problèmes. Arrange-toi avec tes troubles. Puis t'offre jusqu'à la dépression. Ben là, ils sont tannés. Ils vont faire une petite grève qui va commencer à minuit. Allez pas leur gueuler dans la face, ils font pas ça pour vous faire chier. Là. Ça va commencer à minuit, puis ça va se terminer à 10h30, lundi prochain, le 6 novembre. Donc, vos enfants vont commencer l'école un petit peu plus tard. Je suis certain que vos patrons vont comprendre. Je suis convaincu que le petit inconvénient, vous êtes capable de le surmonter. Puis je pense que ça vaut la peine pour que les profs puissent... Tout le monde qui travaille dans le milieu de l'éducation puisse avoir un petit break ou puisse avoir au moins l'opportunité de délivrer un message au gouvernement. Donc, il y a certaines commissions scolaires ou services, centres de services, c'est des commissions scolaires, là, je vais appeler ça de même, là, qui vont maintenir le service d'autobus qui sera juste retardé. Sinon, les autres, ben, vous allez devoir reconduire vos enfants à 10h30 à l'école. Ben, dans la capitale nationale, ça va être 10h45, 11h. Bon, il y a toujours des exceptions. Il y en a comme ça, faire différent. Mais ça va être entre 10h30 et 11h. Amenez-la à 10h30, ça devrait être pas pire. Puis, ce problème-là sera passé pour vous autres. J'ai une autre affaire, pas pire, par rapport à ça. Faut juste que je le retrouve parmi ma multitude de sujets que j'ai préparés. Ben, je le trouve pas. Ce que je vais faire, par exemple, Colin, je veux vous en parler, par exemple. Je vais essayer de le trouver. Donnez-moi juste quelques secondes. Là. Jasez entre vous dans les commentaires. Ah, oh, je l'ai. Un centre de service scolaire. Une commission scolaire. Ah, oh, c'est extraordinaire, ça. Puis ça, je sympathise vraiment là, avec les profs, là. Mais ont décidé d'imposer des activités de mieux-être à leurs profs. Imposer! Si vous voulez que vos profs aillent mieux, payez-les comme du monde. Puis arrangez vos affaires pour qu'ils aient moins de surcharge de travail. Donnez-leur un break une fois de temps en temps. Mais non! Il y a des entreprises comme ça qui aiment ça, forcer ses employés à faire des activités. Des activités! Moi, ça se passe assez mal quand je rencontre ça en emploi, là. Hey, là, on va faire de la méditation ou bien du yoga. Non. OK, vous allez en faire. Moi, je serai pas là. Ah, ben, c'est obligatoire. OK, ben, je colle malade ce jour-là. Moi, je participe pas à des hosties de niaiseries de même puis des thérapies de rire. OK, là, les amis, on va faire des rires en haut. Oh! 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 Maintenant, on va faire des rires en A. Ah! Hostie. Cette business-là de coaching, de prof de maternelle qui parle à des adultes, d'obliger des gens à faire des activités pour souder l'équipe. Fuck you! Je suis un adulte. Si je veux faire des activités, je vais en faire. Si je veux me payer des cours de rire supervisés stupides, je vais m'en payer. Si je veux jouer au badminton, je vais aller jouer au badminton. Si je veux rester chez nous pendant ma seule journée de congé, ben, calice, c'est ça que je vais faire. Mais il y a des profs qui jouent au papa puis à la maman avec ses employés. Pas des profs, mais plutôt des employeurs. Et qui veulent forcer leurs employés parce que c'est pour leur bien. Tu sais pas... T'es peut-être un adulte, mais tu sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je le sais. Puis ce qui est bon pour toi, c'est des cours de sushi, du Zumba, des jeux de société. Oui, oui, les amis, on va jouer ensemble. On va aussi suivre des cours ensemble. Hey, ça va être le fun, les tinamis. Vous parlez à des adultes. À des profs qui sont déjà pognés avec des tinamis. On savait à quel point les enseignants avaient besoin de cette journée-là pour planifier, se concerter, prendre un break aussi, se préparer pour les examens, corriger des copies. Les profs sont capables d'organiser leur temps, sont capables d'organiser leur horaire, même si, puis même que c'est un exploit qu'ils soient capables de le faire avec toute la, avec la charge de travail titanesque qu'ils ont à abattre. Les journées pédagogiques, on peut-tu leur laisser la souveraineté de ça, là? Mais non, parce qu'à Jonquière, au centre de service scolaire de la Jonquière, on a convié les enseignants à une journée d'activité obligatoire. Des activités de mieux-être. Bon, le matin, il y avait un plan, une présentation du plan d'engagement vers la réussite, en avant-midi. Bon, OK. Mais en après-midi, c'est fini. Plutôt que de laisser les profs soit aller se reposer ou soit, dans la plupart des cas, travailler parce qu'ils ont trop d'ouvrages, ben on veut les obliger à suivre des cours de cuisine. Attendez, je lis la liste. Je lis la liste d'activités obligatoires. Des cours de cuisine, des cours de sushi, des cours de pâtisserie, des cours de charcuterie. Voulez-vous apprendre à faire des saucisses? On va en faire des saucisses ensemble! Puis ça va souder l'équipe! Hein? On va être mieux après! C'est du mieux-être! On va se sentir mieux comme prof! Et c'est l'élève qui va en bénéficier! Venez faire des saucisses! Des conférences de José Boudreau. Des cours de plomberie. Maintenance de tuyauterie résidentielle. Du Zumba! Hey, si je veux danser, là, puis faire d'exercice, je suis capable d'en faire tout seul. Je suis un adulte. De la randonnée pédestre. Si les profs avaient le temps de marcher, ils le feraient, OK? Des jeux de société. Faire du casse-tête. Qui est payé pour donner un cours de casse-tête, calice? À qui on donne... Cette commission scolaire-là donne de l'argent à quelqu'un qui va donner un cours de casse-tête à des profs qui sont des adultes, qui ont rarement du répit, et on veut les obliger à aller voir un moniteur de camp de vacances, sûrement grassement payé, pour apprendre à faire du casse-tête. Du hockey cossum. On va jouer hockey. Un tournoi de... J'invente pas ça, je les lis, là. Un tournoi de volleyball. De la danse en ligne. Ça, ça va souder l'équipe. Hey, là, ça va... Ça, le mieux-être, là, ça va paraître, je vous le dis, là. Suivez notre cours de casse-tête ou de danse en ligne. Puis lundi, ce sont vos élèves qui seront bénéficiaires de ça. Pourquoi? Parce que vous allez mieux vous sentir. On va faire de la danse en ligne. Ah, moi, dans mon cas, c'était un genre de coach de vie que mon employeur a essayé de m'imposer. Puis, à la date qu'elle avait choisi ça, ben moi, ça s'adonnait que j'avais un spectacle avec mon groupe de musique. J'étais déjà engagé. Mais c'était donc important pour elle que j'aille suivre ce cours-là. Pas un cours, c'était une activité de communiquer. Finalement, là, c'était un coach de vie qui serait venu nous péter de la broue pendant une journée complète pour nous dire à la fin de la journée, ben votre problème, c'est votre manque de communication. Ben oui, on le sait que c'est ça dans toutes les entreprises, puis c'est pas tes petites formules magiques puis tes petits trucs de bébé lala qui vont changer ça. Tu sais, OK, on va finir puis on va faire des exercices stupides de dire, OK là, ferme tes yeux et laisse-toi tomber derrière et tes camarades vont t'attraper. Puis ça, maintenant, ça va faire que tu vas avoir un sentiment de confiance envers eux, puis vous allez tous être une même... Fuck you, asti. Ça marche pas, ces affaires-là. Là. C'est une business. C'est une business de vendre ces services-là. Puis, il y a des entrepreneurs, il y a des... En entreprise privée, faites ce que vous voulez. Là. Mais une commission scolaire, là, un centre de services scolaires qui veut imposer à des profs surmenés, surchargés de travail, qui tombent au combat, les uns après les autres, on veut leur imposer des cours de saucisses, de zumba, puis de hockey cosum. Ben, les profs ont fait « fuck you ». Puis, un juge du tribunal d'arbitrage a donné raison au... syndicat des enseignants. Puis ils ont obligé, ils ont ordonné le centre de service à rendre la participation optionnelle, comme ça devrait l'être. Si vous avez de l'argent à gaspiller, ça peut-tu être optionnel au moins, là? Plutôt que d'obliger vos profs à faire des hosties niaiseries, là, avec des monitrices de camp de vacances, puis des moniteurs de camp de vacances. Je suis du bord des profs. Je sais pas si c'est assez clair. Je suis de leur bord. Hey, on m'en met pas vrai, là. C'est assez tough, là. On peut-tu ne pas les fucking niaiser, là? Hein? OK? OK, commission scolaire de la Jonquière, là. Arrêtez de niaiser le monde, là. Cet argent-là, là, que vous avez donné à ces monitrices de camp de vacances-là, puis ces motivateurs-là, là, donnez le don aux profs. Trouvez une façon pour que ça leur profite vraiment. Là. Payez-leur des massages, OK? Payez-leur une séance de massothérapie. Pas des cours de saucisse. OK, la bonne nouvelle du jour. Ça, c'est vraiment cool. J'espère qu'on va emboîter le pas au Canada, à la France qui en fait prend les devants devant la montée de la droite conservatrice qui part pas mal des États-Unis puis qui est en train de conquérir la planète parce que dès que les Américains pètent, c'est tout le monde qui le sent. C'est nous autres. C'est vraiment ça. Quand eux autres ont la gastro, c'est nous autres qui ont mal au cœur. Puisque le droit à l'avortement est en recul à plusieurs endroits dans le monde, notamment aux États-Unis, puis d'ailleurs, c'est ça qu'on met de l'avant dans dans l'article. On va inscrire dans la Constitution française le droit à l'avortement. La liberté de recourir à l'avortement sera inscrite dans la Constitution. Est-ce que l'IVG était déjà, l'interruption volontaire de grossesse était déjà un droit protégé? Mais quand on regarde, puis d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on n'est jamais totalement à l'abri. Puis quand on regarde aux États-Unis, justement, l'arrêt qui a... comment ça s'appelle? Roe versus Wade, qui a été renversé et qui ne garantit plus, qui laisse la liberté aux États de légiférer comme ils veulent sur l'avortement, a eu pour conséquence d'illégaliser l'avortement, de le criminaliser à certains endroits ou de le rendre plus compliqué dans d'autres. Mais on prend les devants en France. On niaise pas. Ils sont bons pour être progressistes, les Français. Les États-Unis ont déjà été un pays hautement progressiste. Et les pères fondateurs ont appris ça où? Comment faire une république démocratique et progressiste? Ils l'ont appris en France. Les pères fondateurs américains, il y en a plusieurs qui se sont déplacés, sont allés en France pour apprendre comment faire une république. Je pense que c'est un bon modèle. Et ils devraient encore suivre l'exemple de la France, les Américains. Donc, en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de la grossesse sera, bon, Macron dit irréversible, pas totalement irréversible, mais maudit, ça va être compliqué en maudit d'aller attaquer ce droit-là une fois qu'il sera inscrit dans la Constitution. Donc, un projet de loi en ce sens-là qui va être présenté au Conseil des ministres d'ici la fin de l'année pour qu'en 2024, dans la Constitution française, le droit à l'avortement libre soit protégé. Puis on devrait faire pareil. Fait que félicitations la France, félicitations Emmanuel Macron. C'est un geste qui est à votre honneur et qui est une bonne réponse, je pense, le message international là, à la montée de la droite puis des bigots religieux qui sont contre l'avortement. Parce que tout le monde... Tous les lobbies contre l'avortement le sont pour des motifs religieux. Eh bien, en France, ça va être... C'est ça, t'as raison, Bruno. Rien n'est irréversible, mais ça va être très difficile de renverser ça une fois que ça va être écrit dans le marbre de la Constitution. Puis, maudit, on devrait faire pareil. Puis, je peux vous dire que c'est pas avec Poiliev que ça va arriver. Fait qu'on a un bon 4 ans minimum à attendre, si c'est pas 8. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Je suis content que la France ait fait ça, puis j'espère qu'il y aura un effet d'entraînement. Ça va mettre un terme à votre express, Caroline. J'ai défoncé 1h08. Bon, ben, je vous laisse retourner à job, puis moi, ben, je vais aller commander un McChicken avec des McNuggets avant d'aller suivre mon cours de saucisse puis de Zumba. Non, je ferai rien de tout ça, je vous garantis. Salut tout le monde.
De la famille H2O Web Media.